France Culture.
Risque de famine dans la bande de Gaza. Cet après-midi, Londres déclare préparer un plan pour larguer de l'aide humanitaire à la population. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Le périple en mer de plusieurs dizaines de migrants, une cinquantaine d'enfants et plus d'une trentaine d'adultes ont bravé les eaux aujourd'hui pour tenter d'atteindre l'enclave de Ceuta en Afrique du Nord. Nous reviendrons également sur la mort du musicien et compositeur libanais Ziad Rabbani, une disparition qui bouleverse les Libanais. En France, l'État sommet de réagir face aux conditions de détention indignes de la prison de Toulouse-Sès. Enfin, une pétition qui rassemble près d'1 500 000 signatures à l'échelle européenne. Les joueurs de jeux vidéo s'inquiètent des dates de péremption appliquées par les éditeurs sur les jeux. Un dossier qu'on vous raconte à la fin de ce journal. Londres se prépare à larguer de l'aide humanitaire à la population de Gaza, annonce cet après-midi d'un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer. Alors que les images de la famine à Gaza parcourent le monde et suscitent l'effroi et l'indignation, hier, Israël a indiqué la reprise prochaine de ses opérations de largage d'aide humanitaire. L'État hébreu, qui autorise également les pays étrangers à parachuter de la nourriture et de l'aide médicale à Gaza. Dans ce contexte, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz se sont entretenus au téléphone aujourd'hui. Les trois dirigeants appellent Israël à mettre fin au blocus. Depuis Berlin, les précisions de Sébastien Baer.
À l'issue de l'échange téléphonique, Friedrich Merz évoque un large consensus. Le chancelier allemand s'engage à prendre, dans les prochains jours, des mesures étroitement coordonnées avec la France et la Grande-Bretagne. Pas plus de détails, mais dans un communiqué commun publié hier, les trois dirigeants ont appelé au cessez-le-feu et exhorté le gouvernement israélien à lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide. De son côté, le Royaume-Uni indique qu'il s'apprête à évacuer des enfants ayant besoin d'une assistance médicale et à larguer des vivres sur Gaza. Mais selon plusieurs ONG, ces parachutages ne sont pas la bonne réponse. Pour le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ils sont inefficaces, coûteux et risquent de tuer des civils affamés. Selon le Programme alimentaire mondial, un tiers des Gazaouis sont privés de nourriture. Les ONG présentes sur place dénoncent les contraintes et restrictions qui les empêchent de distribuer l'aide. Selon des données jugées fiables par les Nations Unies, la riposte israélienne a causé la mort de près de 60 000 personnes à Gaza depuis le 7 octobre 2023. La famine va encore alourdir ce bilan.
Sébastien Baer, correspondant de France Culture à Berlin. À Taïwan, le parti présidentiel échoue à renverser une trentaine de députés de l'opposition. Plusieurs référendums étaient organisés aujourd'hui sur l'île pour décider ou non d'exclure 31 élus du parti Kuomintang, le KMT, accusé par le président Lai Ching-te et ses soutiens du parti démocrate progressiste d'être une organisation pro-Pékin et de constituer une menace sécuritaire. Le KMT dénonce, lui, une manœuvre du président pour tenter de récupérer la majorité au Parlement. Libérer Gaza, non à l'extrême droite, des pancartes brandies aujourd'hui à Édimbourg et Aberdeen en Écosse. Des milliers d'Écossais étaient rassemblés pour protester contre la venue du président américain Donald Trump, qui doit rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour négocier un accord sur les droits de douane. Les manifestants entendaient dénoncer l'exportation des idées trumpiennes sur le territoire britannique, en particulier les déportations de migrants. Eux ont parcouru plusieurs kilomètres à la nage pour tenter de rejoindre les côtes espagnoles. Près d'une centaine de migrants, dont 34 mineurs, se sont jetés à la mer pour atteindre Ceuta, un territoire espagnol sur la côte nord-africaine. Secourus par les autorités locales, ils sont hébergés dans les installations prévues pour les migrants et déjà saturées. La correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
La garde civile a dû effectuer plusieurs voyages pour leur porter secours près des côtes de Ceuta. Les 54 mineurs et la trentaine d'adultes ont parcouru à la nage l'étendue d'eau qui sépare le Maroc de la ville espagnole sur la côte nord-africaine au niveau du détroit de Gibraltar. Une voie périlleuse, d'autant que les migrants sont partis quand le mauvais temps pouvait couvrir leur périple. Mais une voie plus susceptible de succès que le chemin terrestre, barré lui par une succession de clôtures de 6 à 10 mètres de haut, truffées de caméras infrarouges et autres dispositifs électroniques. Les derniers arrivés de nationalité marocaine s'ajoutent aux 460 mineurs isolés déjà placés sous la tutelle des autorités locales de Ceuta, lesquels dénoncent un moment critique et réclament l'aide immédiate de l'État. L'an dernier, plus de 300 mineurs ont passé à la nage cette frontière entre le Maroc et l'Espagne, et Ceuta craint de nouvelles arrivées au cours des prochains jours. Le gouvernement espagnol a prévu de transférer fin août plus de 4000 mineurs hébergés actuellement à Ceuta, aux îles Canaries et à Melilla, l'autre territoire espagnol sur la côte nord-africaine. Madrid souhaite les répartir sur la péninsule ibérique, malgré les fortes réticences des régions concernées.
Mathieu De Taillat, correspondant à Madrid pour France Culture. Emmanuel Macron appelle à poursuivre les responsables des violences commises ces derniers jours en Syrie. Le président français qui s'est entretenu avec le président intérimaire syrien Ahmad al-Shara. Les populations civiles doivent être protégées, a écrit sur X le chef de l'État français. En une semaine, les violences intercommunautaires et religieuses ont fait plus de 1300 morts dans le pays, en majorité des druzes. Les incendies continuent de ravager la Grèce. Pour le sixième jour consécutif, les températures frôlent les 46 degrés sur place, alors que des vents de forte intensité attisent les braises. La canicule dans le pays doit durer jusqu'à lundi, selon les autorités. Il était le fils de la chanteuse Fayrouz. Le musicien et compositeur libanais Ziad Rabbani s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 69 ans. Une disparition qui trouve un écho chez de nombreux Libanais. Ziad Rabbani a révolutionné le monde de la chanson et du théâtre au Liban. Son portrait à Beyrouth par notre correspondant Arthur Saradin.
Cette chanson, Shohal Iyam, était sans doute l'une des plus connues de Ziad Rahbani. Elle parlait des inégalités sociales, reprenant les codes des rythmes égyptiens, des codes de la musique arabe que Ziad Rahbani a passé sa carrière à moderniser, en les mélangeant à d'autres sonorités, comme celle du jazz par exemple. Mais Ziad Rahbani a aussi beaucoup écrit, pour sa mère d'abord, la diva Fayrouz, dont il a signé parmi les plus grands succès, mais aussi des pièces de théâtre à l'humour très noir et très politique, car Ziad Rahbani était un provocateur, engagé au parti communiste, laïque, très pro-palestinien et rejetant le système confessionnel régnant au Liban. Il déclarait par exemple en 2013
« Si on devait parler du pays, on n'est même pas foutu d'avoir de l'électricité. C'est normal ça? C'est comme si on vivait à l'âge de pierre, sauf qu'on se pavane avec les derniers habits à la mode et le dernier iPhone. » Eh bien, si c'est comme ça, moi, j'emmerde la République.
Un chanteur donc qui maniait l'humour, la provoque, mélangeait poésie, politique, hybride, comme la culture et la musique libanaise, dont il est resté l'une des icônes.
Arthur Saradin, à Beyrouth, pour France Culture. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, demande des explications à Vueling, la compagnie aérienne accusée de discrimination après le débarquement mercredi d'un avion d'une cinquantaine d'adolescents français de confession juive qui rentraient d'un séjour en Espagne. Une scène violente dénonce les organisateurs de la colonie de vacances auquel appartenaient ces jeunes et qui entend porter plainte contre le transporteur. Le PDG de Vueling assure de son côté qu'une enquête interne est en cours pour des terminer les circonstances exactes de cet incident. 743 places pour près de 1400 détenus, près de 30% de prisonniers dormant sur des matelas au sol. La surpopulation carcérale dans la prison de Toulouse-Sès, reconnue aujourd'hui par la justice française, ainsi que l'indignité des conditions de détention. Dans sa décision, le magistrat exhorte désormais l'État français à prendre 12 mesures concrètes et immédiates pour remédier à cette situation. Parmi elles, la protection des personnes vulnérables, l'hygiène et la propreté. Bonjour Julien Grohard.
Bonjour Jeanne.
L'Observatoire international des prisons qui avait saisi la justice salue cette décision.
Oui, ça fait des années que l'OIP alerte sur les conditions de détention dans la maison d'arrêt de Toulouse-Sès. Moisissure dans les cellules, présence de cafards, fermeture des salles d'activité. Comme vous l'avez dit, 30% des prisonniers dorment sur un matelas au sol. Ils étaient moitié moins il y a 4 ans. Pourtant, en 2021, la justice avait déjà ordonné à l'État d'améliorer les conditions de détention. Une obligation restée jusque-là lettre morte. Le ministère de la Justice n'a jamais pris les mesures réclamées par le juge des référés, car l'ordonnance n'est pas contraignante. De quoi laisser Maître Sébastien Delorge circonspect. Il est l'un des avocats de l'OIP et défend des personnes incarcérées dans cette prison.
Obtenir une bonne décision, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elle soit suivie des faits. On parle de personnes qui sont en cellule à 3, dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24. Faut quand même l'imaginer, ça. Moi, je trouve profondément choquant que le ministre de la Justice ne respecte pas lui-même les décisions de justice. Alors, on espère et on verra dans quelle mesure, cette fois-ci, l'État exécute la décision. Et sinon, on devra ressaisir à nouveau le juge administratif. Et tôt ou tard, on sera obligé de revenir vers la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle condamne à nouveau la France sur le fait que la France ne donne pas les moyens aux justiciables ou aux détenus de faire respecter leurs droits.
Et c'est d'ailleurs dans la région de Toulouse que la surpopulation carcérale est la plus élevée de France métropolitaine.
Merci Julien Groard. Elle se trouvait dans une zone interdite au public. Trois personnes ont perdu la vie ce matin en marge d'un rallye organisé dans le Puy-de-Dôme. Les victimes ont été percutées par une voiture de course après une sortie de route. Tony Estanguet juge incompréhensible la baisse du budget du sport prévue par le plan de rigueur du gouvernement. En marge du premier anniversaire des JO, l'ancien président du comité d'organisation des Jeux de Paris a dénoncé un sport sacrifié. L'exécutif envisage une baisse de près de 18% des crédits jeunesse et sport dans le prochain budget. Arrêtez de détruire les jeux vidéo. C'est le nom d'une initiative citoyenne européenne en passe d'être débattue au Parlement européen. Cette pétition a franchi le cap symbolique des 1 million de signatures, autant de voix pour protester contre une pratique de plus en plus commune des éditeurs de jeux vidéo, débrancher les serveurs permettant d'accéder aux jeux. La manœuvre permet aux éditeurs d'arrêter de payer ces serveurs au bout d'un certain temps, mais elle a pour conséquence d'empêcher les joueurs d'avoir accès à des jeux qu'ils ont pourtant payés. Une forme d'obsolescence programmée dénoncée par les initiateurs de ce mouvement européen avec qui vous avez pu, Pierre Roper, vous entretenir.
C'est un constat qui agace de plus en plus les joueurs. Il est parfois impossible de jouer à un jeu vidéo acheté quelques années auparavant. Pour Brendan Fourdan, l'un des 14 organisateurs de l'initiative citoyenne européenne Arrêtez de tuer les jeux vidéo, il s'agit d'une pratique prédatrice de la part des éditeurs.
Imaginez par exemple que vous payez au prix fort un ouvrage qui vous plaît et 5 ans plus tard, vous vous rendez compte que d'une certaine manière, l'éditeur a arbitrairement décidé de rendre l'encre invisible définitivement sans vous avoir rien remboursé. Certains éditeurs de jeux vidéo, ils essayent de rendre inutilisable à un moment arbitraire de leur choix les jeux vidéo qu'ils avaient vendus à leurs clients sans avoir jamais auparavant spécifié de date de péremption particulière au moment de la vente.
Aujourd'hui, même des jeux qui se jouent en solo ont besoin d'un accès à Internet pour fonctionner. Pour Brendan Fourdan, il ne s'agit pas de demander aux éditeurs de financer indéfiniment les serveurs qui permettent de jouer, mais bien de prévoir des mécanismes dans les jeux futurs pour passer la main aux joueurs.
Comme solution technique, on peut imaginer la prévision dès la conceptualisation du jeu d'un mode hors ligne. On peut aussi imaginer, par exemple, le fait de partager une partie du code source du jeu. Certains éditeurs de jeux vidéo l'ont fait et ça a bien fonctionné.
Pour les initiateurs de la pétition, c'est aussi parce que les lois sur la consommation n'ont pas été conçues en imaginant la vente de biens numériques comme les jeux vidéo qu'il est nécessaire de lancer des débats sur le sujet.
La pratique commerciale abusive qu'on dénonce, elle bénéficie d'une sorte de flou juridique dans les États européens. C'est pour ça qu'on aimerait que l'Union européenne passe une loi claire une fois pour toutes. Les jeux vidéo, c'est une forme d'héritage culturel du 21e siècle et l'idée de détruire par exemple chaque exemplaire existant d'une chanson ou d'un film, ce serait considéré comme une perte culturelle. Donc là, c'est un petit peu le même message qu'on de véhiculer.
La pétition a aujourd'hui largement dépassé le million de signatures nécessaires à son examen par la Commission européenne, mais ses créateurs continuent à la promouvoir pour compenser les éventuelles signatures qui seront invalidées.
1 500 000 signatures exactement, un chiffre qui démontre la capacité de la communauté des joueurs de jeux vidéo à se mobiliser. C'est ce qu'analyse Olivier Moko, il est chercheur en sciences du jeu et en sciences politiques.
La communauté des gamers est très très mobilisable en fait sur les sujets qui la touchent. Dès lors qu'il y a une problématique liée à leur pratique consumériste, hein, que ce soit une question de droit d'accès, que ce soit une question de contenu, ils se mobilisent. Et généralement, comme c'est une pratique et un secteur qui est très émotionnel, ça se mobilise avec des enjeux de valeur, quasiment l'idéologie, et on se retrouve finalement avec une politisation très très rapide. Et c'est le paradoxe, c'est que d'un côté, les gamers disent « on veut pas de politique », mais dès lors que ça touche à leur sujet, très rapidement, leurs revendications deviennent quasi militantistes, parce qu'ils se rendent compte aussi que ça passe dans l'espace public beaucoup plus facilement, en fait, dès lors qu'on a une problématique qui dépasse le cadre du simple jeu vidéo. C'est du droit de consommation. C'est vrai que la numérisation des supports de la pratique pose énormément de questions, quoi, parce que quand vous n'avez plus le bien physique, vous n'en avez plus la propriété basique, en fait. Là, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que la durée de vie d'un jeu ? Qu'est-ce qu'un jeu vidéo aujourd'hui ? Est-ce que c'est un bien culturel ou est-ce que c'est un service ?
C'est l'occasion, en fait, de réfléchir aux jeux vidéo plutôt que de se dire l'un a raison ou l'autre a tort. Les revendications sont légitimes. Autant adresser une réponse, tout simplement. C'est aussi une belle occasion pour l'industrie de reconnecter avec les joueurs plutôt que s'opposer, en fait.
Un dossier signé Pierre Ropert. Le temps demain et une instabilité toujours présente avec des perturbations attendues de l'Aquitaine jusqu'en Île-de-France. Des orages sont aussi à prévoir dans l'Est. Côté température, demain matin, il fera 13 degrés à Aurillac, 16 à Strasbourg, 18 à Paris et 21 à Perpignan. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Caroline Beneteau, à la technique Élise Le.